Luc 21, à partir du verset 5. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit : Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent : Maître, quand donc cela arrivera-t-il ? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ? Jésus répondit : Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi », et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et... en divers lieux, des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Je vais prier. Seigneur grand Dieu, ta parole est tellement profonde, tellement de choses à connaître, mais surtout tellement de choses à mettre en pratique. Garde-nous de toute religiosité, mais que chaque jour, notre cœur s'applique à te servir, en laissant agir ta grâce en nous. Comme si aujourd'hui était le dernier jour, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, parce qu'un jour, le Seigneur apparaîtra. Amen. Dans le ministère terrestre de Jésus, on peut noter deux types de discours, les discours publics et les discours privés. Encore une fois, Luc ne rentre pas dans les détails, mais nous savons par Matthieu et Marc que les quelques-uns du verset 5 qui posent la question sont les disciples. Marc est plus précis, il nous signale que c'est Jacques, André, Pierre et Jean. Vu la suite du texte, on comprendra mieux pourquoi Jésus n'a préféré enseigner que les disciples. L'homme a de tout temps voulu savoir, a voulu connaître les choses du futur. Si vous écoutez la radio, vous tomberez sur votre horoscope. Ouvrez le journal et vous verrez une pub pour un voyant. Soit vous tombez sur des fraudeurs, soit vous tombez sur des personnes au service des démons. Vous connaissez peut-être cette blague sur cette femme qui parle de son mari. Mon mari croit beaucoup en l'astrologie, mais par contre, ça n'aide pas pour les tâches ménagères. Il ne fait la vaisselle que quand Mars, Saturne et Jupiter sont alignés. Lui, on sera d'accord pour dire que c'est un fraudeur. Dieu sait qu'il n'est pas bon pour nous de connaître tout de notre futur. Ça ne veut pas dire que Dieu ne révèle jamais quoi que ce soit des choses à venir. La Bible est remplie d'exemples de prophètes annonçant les choses à venir. Dieu ne révèle le futur qu'à un moment donné et pour une raison particulière. En Deutéronome 29-29, pour la référence, il est écrit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous les mettions en pratique. » Il y a un danger à vouloir scruter les choses que Dieu nous cache. Celui qui recherche les choses cachées risque de délaisser les choses révélées et surtout de ne pas les mettre en pratique. Il devient alors une proie facile pour les tromperies du diable, mais ça nous les verrons tout à l'heure, avec le danger de la séduction. Le discours sur le mont des Oliviers n'échappe pas à la règle. Si Jésus va bien vouloir leur révéler quelques signes, ce n'est que dans un seul but, que l'on verra dans quelques semaines, afin qu'il veille et qu'il prie, afin que nous veillons et prions. L'évangile de Matthieu va même plus loin, en continuant le discours avec l'attitude à tenir en attendant la seconde venue de Jésus, avec les fameuses paraboles des talents et des vierges folles. Après, il est nécessaire de garder dans un coin de sa tête que les Juifs vivaient sous occupation romaine et nourrissaient de grands espoirs pour l'avenir. Et si Jésus était vraiment qui il disait être, alors des versets comme Jérémie 23, 5, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Voilà pour l'arrière-plan. On a donc un peuple juif sous occupation romaine qui attend le Messie pour qu'il rentre dans son règne et donne la délivrance à Israël. C'est un peuple qui subit le présent, mais surtout un peuple qui espère le futur. On en arrive maintenant à notre premier verset qui nous décrit les disciples faisant admirer à Jésus la beauté du temple. Je vais vous parler un peu du temple. Le temple d'Hérode, du nom du roi qui est à l'origine de sa grande rénovation, était considéré comme une merveille du monde antique. De par sa grandeur, environ 25 stades, 15 hectares, mais également par sa beauté, de grandes pierres blanches ornées d'or avec un toit en marbre blanc. Certaines de ces pierres mesuraient 12 mètres sur 8 et pesaient presque 100 tonnes. Si je vous donne tous ces détails, c'est pour mieux comprendre l'étonnement des disciples quand Jésus va leur dire que tout va être rasé. Les travaux duraient depuis 40 ans et allaient encore en durer 40. Imaginez l'étonnement des gens quand Jésus leur dira qu'en 3 jours, il relève ce temple. Il est dit qu'il était quasi impossible de regarder le temple quand le soleil se réfléchissait dessus. C'était vraiment une véritable œuvre d'art. Les disciples sont donc en admiration devant ce qui frappe les yeux. Aussi grand et imposant qu'était le temple, Jésus va au verset 6 leur répondre en leur donnant une leçon qu'ils ne comprendront que bien plus tard. L'Épître aux Corinthiens nous dit « Ne regardez pas aux choses visibles, car elles sont passagères. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Jésus est en train de leur dire « Écoutez plutôt ce que j'ai à vous dire. » Le prophète Agée avait également pris cette expression. Verset suivant, ça c'est le temple d'Hérode, photo Google Maps. L'expression « pierre sur pierre » au verset 6, pour en annoncer la construction. Jésus, lui, va reprendre volontairement cette expression pour cette fois-ci annoncer la destruction du temple. La prophétie de Jésus sur la destruction sera accomplie 40 ans plus tard, en l'an 70, quand les armées romaines vont investir Jérusalem pour les punir de leur rébellion contre l'Empire romain. Les preuves archéologiques et historiques confirment la validité de la prophétie de Jésus, à tel point que la critique va insinuer qu'il n'a jamais prononcé ces mots, qu'ils ont été rajoutés dans sa bouche que bien plus tard. Même si Luc n'en parle pas dans son récit, Matthieu et Marc précisent, eux, que Jésus invite les disciples à prier pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Donc un argument contre la critique. Si on fait dire à Jésus une prophétie, autant lui faire prédire la bonne saison. Et pour ceux qui disent que quand Jésus parle de l'hiver, il ne parle pas de la destruction du temple en 70, mais de sa seconde venue à la fin des temps, il faudra expliquer pourquoi, alors que la fin du monde va toucher le monde entier, il n'y a l'hiver que dans une partie du monde. Ou alors, il n'écoute pas les prières de ceux de l'hémisphère nord ou ceux de l'hémisphère sud. Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement. L'hiver, la fin du monde va toucher le monde entier, et l'hiver sera forcément quelque part. C'est donc un événement qui s'est produit en 70, et Jésus a annoncé surtout l'attitude à tenir, pas la saison. On va rentrer plus dans les détails là-dessus tout à l'heure. Jésus est Dieu. En Ésaïe 46, verset 10, voilà ce que dit Dieu. Je ne sais pas si je te l'avais donné. J'annonce dès le commencement Verset 10. Non, c'est pas celui-là. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Car oui, c'est la volonté de Dieu que Jérusalem soit détruite à cause de leur incrédulité qui va conduire au meurtre du Sauveur. C'est déjà la troisième fois que Jésus prophétise la destruction de Jérusalem et du Temple dans l'évangile de Luc. Au chapitre 13, quand il dit « Votre maison vous sera laissée déserte ». Au chapitre 19, parce qu'ils n'ont pas connu le jour où ils ont été visités. Dieu punira toujours l'incrédulité. Il faut s'arrêter 2 secondes et réfléchir là-dessus. Dieu va détruire sa ville bien-aimée. Nous nous devons de l'annoncer autour de nous. Nous aimons proclamer la bonne nouvelle, elle est vraiment bonne. Car pour les autres, c'est un jugement terrible qui les attend. Tous ceux qui auront refusé la grâce du salut en Jésus connaîtront un sort bien plus terrible que celui qu'a connu Jérusalem en l'an 70. Nino nous avait raconté dans les détails ce qui s'était passé. Vraiment affreux. Dieu va détruire sa ville bien-aimée parce qu'elle n'a pas connu le jour où elle était visitée. Pensez à tous ceux de votre entourage qui se disent être une bonne personne. Que leur fera Dieu s'il n'a pas épargné sa ville bien-aimée, remplie de personnes qui se croyaient justes par leur religiosité? Le seul lieu qui garantit le salut est en Jésus-Christ. On va le voir tout à l'heure. Jésus devient notre sanctuaire, devient notre temple. Plutôt que de rentrer dans des discussions folles sur les signes de la fin des temps, si on ne doit retenir que 2 choses de ce long discours, en un, on a un Dieu qui punira toujours l'incrédulité, mais on a aussi un Dieu qui met son peuple à part. On va le voir tout à l'heure. En 2, l'Église doit veiller et prier pour rester fidèle à son Sauveur. On continue au verset 7. Ah, je l'avais. On voit que les disciples, contrairement aux pharisiens, eux croient à ce que leur annonce le Seigneur. Le Seigneur a réussi à piquer leur curiosité. Comment un monument si impressionnant que le temple pouvait être détruit si ce n'est à la fin du monde? Encore une fois, Matthieu nous donne plus de détails. Je cite, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Avant de continuer, je dois préciser qu'il n'y a que 2 façons d'interpréter ce texte. Soit tout a été accompli en l'an 70, soit une partie seulement a été accomplie en l'an 70, comme image du jugement à venir lors de la fin des temps. Mais on ne peut pas mettre 70 de côté dans la prophétie du Seigneur. Après, tout dépend d'où on regarde. Pour nous, l'an 70 est loin derrière nous. Et on ne le considère pas comme un événement faisant partie de la fin des temps. Contrairement aux disciples qui, eux, ont dû attendre 40 ans avant de voir les événements se produire. Depuis la première venue de Jésus, nous sommes dans la fin des temps. Jésus interprète la chute de Jérusalem comme un événement eschatologique de la fin des temps, mais pas en relation immédiate avec sa seconde venue. Ce n'est qu'une étape dans son plan. La réponse du Seigneur, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, a dû les laisser perplexes. Il faut dire que même nous, avec le recul et la révélation complète, on ne peut faire que des suppositions. Je vous lis Acte 1, verset 6, un passage qui se déroule juste avant l'ascension du Seigneur, qu'on a d'ailleurs fêté cette semaine, à moins qu'on ait fêté le jour férié. Je lis. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? On voit qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de revenir à la charge. La première réponse du Seigneur n'avait pas totalement comblé leur curiosité. Mais dans le livre des Actes, on peut voir que le Seigneur mettra un point sur les i en leur disant « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » comme je vous le disais tout à l'heure, il n'est pas bon pour nous d'être trop curieux sur les choses à venir. Mais ça ne dénote pas un manque de foi de notre part, ni des disciples. Eux, ils attendaient le royaume de Dieu. Nous, nous attendons une nouvelle terre et des nouveaux cieux où la justice habitera. D'ailleurs, Jésus ne les reprend pas, mais il ne va pas satisfaire totalement leur curiosité. Au verset 8, à la question « quand ?», on peut voir qui répond « attention ». On est d'accord pour dire qu'il y a plus précis comme réponse. Au lieu de parler « signe », le Seigneur va parler « danger ». Le Seigneur va les mettre en garde contre l'un des plus grands dangers qui nous guettent, la séduction. La séduction n'est rien d'autre qu'une arme entre les mains du diable. Il n'en a que deux, ou la séduction ou la persécution. On verra ensemble la persécution la semaine prochaine. Mais le Seigneur place en premier lieu la mise en garde contre la séduction. Non comme ordre de priorité, comme si la séduction était plus dangereuse que la persécution, comme si la vie d'occidental était plus dangereuse que la vie de jeunes convertis nord-coréens, où détenir une Bible est dangereux. Ce n'est pas la persécution qui inquiète le Seigneur. Dans un autre discours, également sur une montagne, Jésus a même dit, en Matthieu 5, à partir du verset 10, Matthieu 5, à partir du verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » On peut continuer. Tu n'avais pas le suivant ? Je le lis. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Le Seigneur dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, nous dit la Bible. On ne pourra pas y échapper, peu importe la forme que prend la persécution. N'oublions pas le contexte. Jésus annonce le jugement de Jérusalem, mais Jésus parle à ses disciples. Il parle à son Église, il nous parle. Jésus a plus peur pour la vérité que pour la justice. Pourquoi la justice n'inquiète-t-elle pas le Seigneur ? Parce que c'est son affaire à lui. L'Épître aux Romains nous démontre si bien que la justice est un don de Dieu qu'il met sur notre compte. La justification devant Dieu ne dépendra jamais de nos œuvres. Ce n'est pas nous qui la gagnons, ce n'est pas nous également qui la conservons. C'est seulement par la foi qu'on est justifié, nous dit l'Épître aux Éphésiens. C'est le don de Dieu. Par contre, ne pas s'écarter de la vérité et l'enseigner, ça c'est l'affaire de l'Église. C'est notre affaire. Garder la saine doctrine est notre mission à tous en faisant preuve de discernement pour résister à la séduction. Le diable va dans 2 jours, après ce discours, pas après-demain, donc le diable va connaître sa défaite avec la crucifixion du Seigneur et surtout sa résurrection. Et il va bientôt entrer dans une colère noire et Jésus sait qu'il fera dès lors tout son possible pour aveugler l'intelligence des gens afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile, par le biais de la séduction notamment. Rien de nouveau sous le soleil. Déjà, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit « tu mourras ». Qu'a dit le diable ? « Vous ne mourrez pas ». L'un des deux mentait. Le diable est le père du mensonge et Jésus est la vérité. La séduction du mensonge est grande, mais surtout dangereuse. Et Jésus met en garde ses disciples pour qu'ils restent attachés à la vérité, c'est-à-dire à sa personne, en résistant à la séduction. Il ne faut pas se tromper sur le but de ce discours. Jésus ne parle pas pour assouvir notre curiosité sur la manière de discerner les signes de la fin, mais Jésus veut que nous restions alertes. Il commence son discours par « prenez garde » et on verra plus tard, il finit par « veillez et priez ». même si l'ensemble du discours a une portée prophétique, il a avant tout un but pastoral, nous invitant à bien nous comporter. Beaucoup de chrétiens qui veulent parler de la fin des temps vont ouvrir leur Bible à Matthieu 24, Marc 13 ou sur ce passage, pour comparer ce qu'ils entendent aux infos avec ces textes. À tous les siècles, je dis bien tous les siècles, les chrétiens ont cru discerner ces signes. Augustin les a vus, Luther les a vus, nous les voyons. Vous connaissez sûrement ce proverbe, « Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. » Je voulais voir qui allait regarder le doigt. Non, ça ne marche pas, je ne suis pas sage. Jésus ne pointe pas vers les signes, mais vers notre attitude. Est-ce que nous veillons et prions? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi à son retour. Rester attaché à la vérité, voilà le plus important. Ça ne veut pas dire que les signes sont inutiles dans ce discours, on va les voir ensemble. Le premier d'entre eux, au verset 8, les faux Christ. Les faux Christ. Ceux qui disent « c'est moi », qui pourrait être traduit par le fameux « je suis », égoémie en grec. Depuis cette mise en garde jusqu'à aujourd'hui, on ne compte plus les faux Christ. Jean, dans ses épîtres, dira que c'est la dernière heure et qu'il y a plusieurs antéchrists. Un antéchrist est celui qui a la place du Christ, celui qui revendique pour lui ce qui appartient à Christ, au Christ. On peut donc en déduire qu'avant 70, la prédiction de Jésus s'était déjà réalisée. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épreuve interne, c'est-à-dire celle qu'on retrouve dans la Bible. Pour l'épreuve externe, il faut souvent se tourner vers les historiens. Mais le fait que ce soit écrit n'a pas empêché l'apparition de faux Christ à travers l'histoire. On en compte plus de 1000 rien que lors des 50 dernières années, principalement en Afrique et en Amérique du Sud. Oh là là, je ne vais pas m'attarder sur lui. À toutes les époques, sur tous les continents, les faux Christ ont tenté de détourner les gens de la vérité. La liste est trop longue, je vais juste être un peu chauvin et vous parler du faux Christ français le plus proche de nous, malheureusement célèbre, Claude Vaurillon, d'Israël, fondateur des Raéliens. Pour lui, la vie a été créée par des Elohim. Jusque-là, rien de bien contraire à la Bible, sauf que pour lui, les Elohim sont des extraterrestres. Sodome et Gomorre ont été détruites par des missiles nucléaires et Noé, grâce à l'ADN, a recréé la vie sur Terre. Il s'est tristement nommé le prophète bien-aimé ou bien encore le fils de Yahvé, dont il porte le message de la bonne nouvelle, c'est-à-dire celui de la vie éternelle par le biais du clonage. Tout un programme. La vérité est donc au cœur de la mise en garde de Jésus, en opposition au faux Christ. Jean le Baptiste a dit, en Jean 1, 20, il déclara, et le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Jésus a dit à la Samaritaine, « Je le suis, moi qui te parle. » Être de la vérité, c'est quoi? C'est rendre gloire à qui de droit? Et comment? En restant attaché à la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité. C'est la seule façon de ne pas être trompé par une contrefaçon. Petite anecdote, quand j'étais plus jeune, je ne m'intéressais pas aux affaires de marque. Puis vint le collège, j'ai voulu faire comme tous les autres, et j'ai forcé ma mère à m'acheter une paire de chaussures de marque, une belle paire de Reebok. Elle a fini par céder, ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Le lendemain, je vais au collège, tout le monde s'est moqué de moi avec ma paire de Reebok au pied. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était une contrefaçon. Je ne connaissais pas assez les marques. Par contre, les autres, eux, ils connaissaient bien les marques. Et la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on est assez attaché à Jésus pour bien reconnaître, pour bien connaître, ne pas se laisser tromper par une contrefaçon. Si vous connaissez Carl Zero, qui dit « Méfiez-vous des contrefaçons ». Quand Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, on pourrait paraphraser ainsi. Tu vas avoir la vie, écoute-moi et suis-moi. Quand il parle des faux Christ, Jésus dit à ses disciples, « j'ai perdu la page. Surtout, ne les suivez pas. Ils viendront en mon nom et ne les suivez pas. Et ne les écoutez pas. Tapez liste de prédictions de la fin des temps sur Wikipédia et vous serez frappé du nombre de papes, de moines et même de protestants qui ont prédit la fin du monde. Et vous savez quoi ? Ils se sont tous trompés. Le maître reviendra comme un voleur dans la nuit. Une chose reste certaine, Jésus revient. Jésus, dans son discours, semble donc donner des prédictions à double accomplissement. Un premier accomplissement en l'an 70, comme jugement d'Israël pour avoir rejeté le Messie, et un deuxième accomplissement lors de la fin des temps, comme jugement du monde, cette fois-ci, pour avoir rejeté l'Évangile, avec les mêmes signes, mais à plus grande échelle. Les synoptiques nous disent que ce ne sera que le commencement des douleurs. Toutes celles parmi vous qui ont accouché, certaines plus que d'autres, comprennent cette image. À mesure que l'on se rapproche de l'accouchement réel, les douleurs de l'accouchement augmentent en qualité et en quantité. L'image indique que lorsque la fin viendra, ce sera très douloureux pour le monde entier. Je crois sincèrement que même si on verra tous les signes qui vont suivre s'accentuer à la fin des temps, Jésus, par son discours, a également permis à l'Église primitive de se tenir en éveil pour échapper au jugement à venir. Il n'est donc pas toujours facile de savoir avec certitude si les événements décrits appartiennent à la chute imminente de Jérusalem ou bien aux catastrophes de la fin des temps. Sûrement un peu des deux. On va lire 2 Pierre 2, du verset 4 au verset 9. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être puni au jour du jugement. C'est aussi ce que Dieu refera, c'est du moins ce que nous croyons, à la fin des temps avec l'enlèvement de l'Église. Les jugements temporels de Dieu ne sont qu'un avertissement avant le jugement éternel à venir. Ils ne sont que l'ombre des choses à venir. Dieu ne change pas et le jugement de Jérusalem n'échappe pas à cette règle. Tout comme Dieu a mis à part Noé, tout comme Dieu a mis à part Lot, Jésus, en donnant les signes avant-coureurs, a permis aux chrétiens de Jérusalem de s'enfuir. De toute manière, nous on le sait, tous ceux qui ont entendu ce discours sont déjà tous morts sans avoir vu la fin du monde. Il y avait donc une interprétation qui leur était destinée. Et une autre interprétation destinée à tous ceux qui ont vécu, qui vivent ou qui vivront entre l'an 70 et la fin du monde. C'est une exhortation à vivre comme si aujourd'hui était le dernier jour, à vivre en ayant les regards non sur ceux qui pourraient nous inquiéter, mais sur ceux qui fait notre espérance, ce qui fait notre joie, le retour du Seigneur. Demain, la guerre nucléaire peut éclater, un astéroïde peut frapper la Terre, sans parler du réchauffement climatique. Les dangers sont nombreux, mais la paix que nous a laissé Jésus est plus grande que tout ce qui pourrait troubler notre quiétude. Notre seul socle pour tenir ferme est la parole de Dieu. Si je ne savais pas ce que dit l'Écriture, si je ne savais pas que Dieu était souverain, si je ne savais pas que Dieu est sur le trône et que Dieu ordonne l'histoire, ce serait vraiment un monde terrifiant à vivre. Les psaumes nous disent que Dieu était sur son trône lors du déluge. Écoutons juste la voix du Seigneur qui nous dit « Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. » N'oublions jamais que Dieu est souverain. Absolument tout ce qui arrive fait partie de son plan. Je crois à une souveraineté totale de Dieu, même sur les fléaux. Ce passage nous montre que les guerres sont une nécessité divine. Je n'ai pas rentré dans les détails, mais tous les signes annoncés dans les versets qui suivent se sont bel et bien produits avant 70. Les historiens nous rapportent des guerres au sein de l'Empire romain, des tremblements de terre, des pestes et des famines. C'est décrit par les historiens avec une telle conformité à la Bible que c'en est troublant. C'est pour cela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la critique va avancer que ce discours a été mis dans la bouche du Seigneur que bien après les faits. Il en est de même pour la prophétie d'Ézéchiel sur la ville de Tyr et pour la prophétie d'Ésaïe sur le roi Cyrus. Toutes des prophéties si précises qu'elles sont forcément attaquées par la critique. Ce texte aussi a été attaqué par la critique. Allez faire vos recherches. Vous ne verrez plus la Bible de la même manière après cela. On dit souvent que les infos ne nous rapportent que les mauvaises nouvelles. De même pour les livres d'histoire. Si vous étudiez l'histoire du monde, vous étudierez forcément l'histoire de la guerre. Je vais quand même finir avec une citation heureuse d'Épiphane, un historien. Je crois que j'avais mise. Cette hérésie des Nazaréens existe à Bérée en Syrie, dans la Décapole, au voisinage du territoire de Péla. C'est là qu'elle a pris naissance, après que tous les disciples eurent quitté Jérusalem et se furent installés à Péla, parce que le Christ avait dit de laisser Jérusalem et de trouver un endroit où se retirer à cause du siège que la ville devait supporter. Et ayant émigré pour cette raison en Pérée, ils s'y installèrent, comme j'ai dit, et c'est ainsi qu'a pris naissance l'hérésie des Nazaréens. Même si apparemment, pour Épiphane, ce n'était pas une si bonne nouvelle que ça. Il appelle le christianisme une hérésie. Les disciples ont donc bien compris ce qui leur était adressé. Il semblerait que les chrétiens ont quitté Jérusalem avant le massacre. Sûrement pas tous. Beaucoup ont dû trouver la mort dans Jérusalem, mais ce massacre était un jugement sur le peuple juif incrédule. Ceux qui avaient cru en Jésus n'étaient pas visés. Même si on le verra la semaine prochaine, Jésus permet en d'autres endroits que les chrétiens soient persécutés et mis à mort. Souvenez-vous de l'intercession de Moïse en Exode 32, 11. Exode 32, 11. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Nous avons un grand prêtre auprès du Père, et Jésus est bien plus grand que Moïse. Jésus a toujours pris soin de son peuple et continuera toujours de le faire. Pour ça qu'on croit que, je crois du moins, que ce discours permettait aussi aux chrétiens de quitter Jérusalem avant le massacre. Quelles leçons tirer de tout cela ? Jésus a donné un cap, une attitude à tenir en attendant son retour. Vous remarquerez que beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de la seconde venue de Jésus sont accompagnés d'une exhortation à la piété, même si piété est souvent synonyme de persécution. Maintenant, je vais vous poser cette question. Qu'est-ce que ça change pour nous, la destruction du temple ? Jésus a dit « Détruisez ce temple et dans 3 jours je le relèverai. » Il parlait du temple de son corps. Le temple va bientôt devenir inutile. Le sacrifice parfait et suffisant va bientôt être offert. Le voile va se déchirer, donnant à tous ses bien-aimés un libre accès auprès du Père. Un libre accès au lieu très saint. Christ est devenu notre sanctuaire, c'est-à-dire le lieu saint où l'on peut trouver refuge, où l'on peut s'approcher de Dieu. Nous sommes placés en lui, nous dit Paul, bien plus grand, bien plus glorieux que tous les temples terrestres. On comprend mieux les paroles de Jésus quand il disait « Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple ». Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Je le cite. « Femme, crois-moi, L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. L'adoration va se faire en esprit et en vérité, en opposition à la religiosité du peuple juif. Le temple était le centre même de la religion juive. Jésus est le dernier sacrifice qui met fin à tous les sacrifices. Jésus est le dernier prêtre qui met fin à tous les prêtres. Jésus est le dernier temple qui met fin à tous les temples. Jésus n'est pas venu apporter une autre religion, ni une meilleure religion, mais il est venu mettre fin à la religion. Je vais finir avec cette illustration. Imaginez une conversation entre un Romain et un chrétien au 1er siècle. Le Romain dit au chrétien, « Hé, j'ai entendu dire que tu es quelqu'un de très religieux. » Moi aussi, je suis très religieux. Je vais tous les jours au temple. Mais où est votre temple ? Le chrétien lui répond, on n'a pas de temple. Jésus est notre temple. Pas de temple, dit le Romain. Mais alors, où vos prêtres exercent-ils leur service ? Nous n'avons pas de prêtre, répond le chrétien. Jésus est notre prêtre. Pas de prêtre. Mais alors, qui offre les sacrifices pour apaiser votre Dieu ? C'est déjà fait. Jésus est notre sacrifice, pas besoin d'offrir des sacrifices. Pas de temple, pas de prêtre, pas de sacrifice. Mais c'est quoi cette religion ? Et la réponse, nous la connaissons. Nous n'avons pas de religion. Nous avons une relation avec notre Sauveur. Une personne vivante qui est devenue notre temple. Et un jour, dans ses parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Amen.